J'ai choisi de travailler sur Pascal d'abord parce que j'avais l'idée de commencer une sorte de cycle dans mon travail de biographies, qui soient des biographies exhaustives, si possible non anecdotiques et durables, qui me satisfassent plus que d'autres que j'avais lues, parce que je trouve qu'en général les biographies traitent d'un personnage sans le remettre dans le contexte historique, sans voir comment il se situait par rapport à tout ce qui arrivait autour de lui. Et donc j'ai voulu commencer à cerner ce nouvel genre de biographie et le faire sur une série de personnages qui soient des gens qui ont influé sur l'histoire du monde seulement avec leurs idées. J'avais commencé par un homme important, peut-être plus important de l'histoire de la finance du XXe siècle, Sigmund Warburg, et qui m'avait permis en même temps de tracer le portrait de la finance occidentale à travers la grande crise de 1929 et les crises antérieures, et la naissance de la finance d'aujourd'hui avec tout ce qu'on sait de ce qu'elle porte. Et je me suis donné trois noms importants d'hommes qui avaient changé beaucoup de choses seulement par leurs idées, Pascal, Marx et Gandhi, et j'en ai fait les trois biographies. Maintenant, j'en ai encore 21 autres en chantier, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de les écrire, mais la plupart sont d'ailleurs assez largement avancés. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Pascal? Parce que Pascal, j'ai toujours été absolument bouleversé par son style, par la modernité de son style, par l'extraordinaire diversité du personnage. C'est un très grand physicien, c'est un grand mathématicien, il a, je rappelle, été à la source du calcul des probabilités, de la géométrie projective, du calcul intégral et de beaucoup d'autres théories fondamentales. C'est un très grand physicien puisqu'il a, un des premiers, sinon le premier, inventé la physique expérimentale, démontré l'existence d'une couche de l'atmosphère et l'existence du vide. C'est un extraordinaire écrivain, c'est d'abord ça. Une langue, c'est le premier à écrire dans le français moderne, c'est la langue française. Je crois que qui que ce soit qui veut comprendre ce qu'est le français doit lire les provinciales et évidemment se nourrir quotidiennement des pensées, parce qu'on y trouve le cœur de la langue française, une langue simple, brève, faite de ce que Pascal appelle la symétrie et le contraste, la brièveté, symétrie, contraste, qui sont les trois mots-clés de la langue française de Pascal. La phrase courte, à l'époque inconnue, le contraste, les oxymores permanents, le roseau pensant étant un des plus célèbres, la symétrie, c'est-à-dire les phrases avec des pendants qui se répondent. Et en même temps, lorsqu'on pénètre plus encore dans son œuvre, on s'aperçoit que c'est d'abord un immense philosophe sur une question qui, a priori, celle des provinciales, nous paraît, je vais y revenir, totalement dépassée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de grâce? Qu'est-ce qu'on a à faire de savoir si les hommes ont reçu une grâce arbitraire avant de naître, et si seuls ceux qui ont une grâce ont la possibilité d'avoir droit à la vie éternelle? Qu'est-ce que ça peut nous intéresser aujourd'hui que de se poser cette question? Comment cet homme aurait-il passé sa vie autour de ça? Et puis on se rend compte, et je vais y revenir, que c'est une question d'une importance extraordinaire, qui est d'une modernité incroyable, qui est la seule question que la philosophie s'est jamais posée, qui reste aujourd'hui au cœur de la pensée philosophique et scientifique. Et puis enfin, c'est une vie absolument fascinante, en tant que telle, qui mériterait en tant que vie seulement d'être l'objet de roman. Puis j'ai découvert aussi un lieu que je vous invite tous à aller voir si vous n'y avez pas été, qui est un lieu habité encore par la grâce, même si les rois de France successifs ont tout fait pour le raser, le détruire, le rendre inexistant, je veux dire Port-Royal. Si vous n'avez pas été à Port-Royal, allez à Port-Royal. Fermez les yeux et vous verrez ce qu'est la grandeur de la France. Et puis j'ai découvert un autre personnage, peut-être plus encore extraordinaire que Blaise Pascal, qui m'a ému vraiment profondément et dont j'ai essayé de rendre le destin tout au long de ce livre, c'est Jacqueline, sa sœur, qui a sans doute une importance très considérable dans la vie de Blaise, mais aussi tout court, et qui renvoie au lendemain de la journée de la femme à cet extraordinaire écrasement de l'intelligence féminine tout au long des siècles. Elle était un génie philosophique et littéraire qui n'a pu manifester son génie que dans son rapport avec son frère, dont elle a sans doute d'ailleurs écrit une partie de l'œuvre, mais ça sera très difficile à jamais établir, même s'ils ont co-signé un certain nombre de textes qui montrent sa puissance intellectuelle extraordinaire. Rapidement rappelé, Pascal est, comme vous le savez tous, né autour de 1620, 1623, et parcourt une quarantaine d'années de vie très courte, né à Clermont-Ferrand, d'un père qui est un extraordinaire inventeur de la pédagogie moderne. Pour ceux d'entre vous qui ont été ou sont dans l'enseignement, il faut regarder la façon dont le père de Blaise Pascal refuse, interdit à ses enfants d'aller à l'école et leur enseigne lui-même, leur enseigne des choses qu'à condition qu'ils comprennent avant que ça va servir à quelque chose, que c'est utile, donc on n'enseigne pas les mathématiques parce que ça ne va pas, on ne voit pas très bien à quoi ça va servir, on enseigne d'abord le français, puis on motive l'intérêt pour les choses, et c'est sans doute grâce à cette marginalité qui va être le cœur de Pascal, marginalité immédiate, ce père qui est veuf très jeune, que ses trois enfants, un fils et deux filles, dont la troisième va avoir un destin assez beaucoup plus banal que les deux autres, vont exprimer leur extraordinaire liberté de parole, liberté de pensée. Et il se trouve que le hasard, sans doute, ou pas le hasard, ça renvoie à la théorie fondatrice de Pascal, la théorie de la grâce, il se trouve qu'il y a deux génies sur les trois. Est-ce que les deux génies sont géniaux parce que leur père leur enseigne ainsi, ou est-ce que leur père leur enseigne ainsi parce qu'il a compris qu'il avait affaire à des monstres intellectuels, on ne le saura jamais. Puis ils partent à Paris et à 13 ans, ce gamin, mêlé par son père au cœur du premier groupe intellectuel qui commence à penser libre, on est au début du XVIIe siècle où il devient impossible de penser hors de l'Église. N'oublions pas que 30 ans plus tôt, on a encore brûlé quelqu'un à Place Saint-Pierre à Rome pour avoir dit que refuser de croire que la Terre est au centre de l'univers. Giordano Bruno a été brûlé en 1er janvier 1600. On commence à penser libre, la science, et on commence à penser aussi à l'idée de liberté qui apparaît dans un univers où la France, qui n'est absolument pas le centre de l'économie mondiale, mais est quand même un des grands centres intellectuels et un des grands centres de la liberté de penser. 13 ans, il invente la théorie des coniques, c'est-à-dire la projection, toute la théorie de la projection des éléments dans l'espace sur un plan, ce qui va donner toute la géométrie projective, qui va être d'ailleurs au cœur du développement de l'industrie des machines jusqu'à aujourd'hui, qu'on appelle dessin industriel ultérieurement, avec des théories que personne n'a trouvées, ce qui entraîne d'ailleurs immédiatement, de la part de la gloire philosophique du moment, un certain Descartes, une extrême colère contre ceux qui peuvent croire qu'un homme de 15 ans peut être capable de trouver des choses aussi complexes. Et la haine entre les. Enfin, la violence de Descartes contre Pascal, qui est d'ailleurs assez mal rendue dans la pièce qui les oppose, ne va pas le lâcher. Et puis ensuite, un peu plus tard, Pascal et son père et ses sœurs partent à Rouen, où le père est nommé haut fonctionnaire, chargé d'ailleurs d'une basse besogne, puisque c'est de réprimer une révolte. Pour faire court, c'est l'occasion de rencontrer Corneille pour la sœur. Corneille considère qu'elle est un meilleur écrivain que lui, elle a 16 ans, et elle va écrire, elle va d'ailleurs approcher la cour, elle va être considérée par Richelieu comme une grande promesse, puis la petite Vérole détruit son visage, elle est sortie du monde et elle va réprimer son intelligence pour en faire être l'inspiratrice de son frère. Et ce couple, parce que c'est un vrai couple, va continuer sa bataille pour atteindre le sommet de l'intelligence. Avec toujours des occasions de rencontres, l'une que je passe, qui est qu'à le père étant officier des impôts et qu'il a du mal à calculer tout ce qu'il a à calculer, au passage, le jeune Blaise Pascal invente la machine à calculer, qui est le fondement de l'informatique. Puis, il découvre au hasard de certaines rencontres la discussion sur le vide et la pression atmosphérique, et va mettre au point l'expérience qui va déboucher à cela, sur la certitude de l'existence de la pression atmosphérique, et inventer comme ça toute la problématique de la physique moderne, somme vers 1640. 1555, ouais, 1556 très exactement. Et puis en même temps apparaît, il est mêlé pour des tas de raisons anecdotiques au débat sur la grâce. C'est un débat qui peut paraître, je l'ai dit tout à l'heure, extrêmement étrange, mais c'est un débat qui nous paraît bizarre, puisqu'il y a un groupe de gens qui, autour de certains docteurs de l'Église, autour de l'œuvre d'un théologien qui vient de mourir, Janssen, et avec un groupe de gens qui, la famille des Arnaud et quelques autres, défendent l'idée que l'homme ne peut pas atteindre la vie éternelle sans avoir reçu initialement une certaine forme de grâce, et que si on n'a pas cette grâce arbitrairement donnée, on ne peut pas avoir accès à l'éternité, même si il faut se conduire d'une certaine façon si on l'a reçu pour pouvoir y atteindre. Ce qui a pour nous paraît sans importance, mais qui à l'époque est d'une importance considérable politique et philosophique. Philosophique parce que dire que la grâce initiale est nécessaire et que il faut en plus se conduire de façon modeste et humble. Détruit totalement la nécessité d'église même, parce qu'après tout, à quoi sert une église s'il faut avoir une grâce, et à quoi sert la confession si rien ne permet de gagner l'éternité si on n'en a pas la valeur initiale, le droit initial. Et donc c'est une opposition très forte contre l'église, et en même temps c'est aussi une opposition politique, puisque c'est le début d'une période où autour des jésuites et de la casuistique, c'est-à-dire la théorie qui va permettre d'avoir des accommodements avec le péché, il y a l'émergence d'une théorie de la liberté individuelle. Et nous, hommes d'aujourd'hui, nous sommes en fait en théorie beaucoup plus près des jésuites, des casuistes que de Pascal, puisque cette théorie de ce que nous sommes déterminés par le destin nous paraît bien étrange. En réalité, il y a chez Pascal aussi l'idée que nous sommes peut-être en partie déterminés par le destin, mais qu'en même temps, il nous appartient de jouer notre rôle. Il prend des métaphores magnifiques, en particulier celle du paysan qui a un terrain. Il a un très beau terrain ou un très mauvais terrain. Sur le terrain qu'il a, il peut avoir de très bonnes récoltes, mais suivant la pluie qui tombe, la grâce, et suivant le travail qu'il fournit, les résultats sont évidemment très différents. Donc il y a, malgré tout, le jeu de la liberté à l'intérieur de la grâce chez Pascal. Et cette bataille va trouver très vite une expression politique, puisque à la fois l'Église et le pouvoir politique s'opposent à ces gens qui prônent l'austérité, la rigueur, la morale à Port-Royal, qui est à quelques kilomètres à vol d'oiseau de cet endroit où le roi va construire le plus beau palais d'Europe, Versailles. Il va écrire à la demande de ses amis qui sont beaucoup plus grands théologiens que lui, mais qui sont incapables d'écrire aussi bien que lui, il va écrire des lettres anonymes, écrites par un personnage imaginaire, à un ami de province, ce sont les provinciales, que je vous invite infiniment à lire et à relire, parce que c'est un texte d'une drôlerie extraordinaire, d'une qualité de polémiste extrême, et qui sont aussi d'ailleurs l'occasion d'un véritable roman d'aventure, puisque il les publie sous pseudonyme. D'ailleurs, il va publier toute sa vie sous pseudonyme. Il y a Pascal, de son vivant, va publier 50 pages en tout, sous le nom de Blaise Pascal. Le reste, il le publiera sous 7 pseudonymes différents, de son vivant ou après sa mort, dans les textes qu'il aura laissés. Et ces textes, c'est l'occasion d'une première bataille où les textes sont écrits d'une telle façon qu'on puisse les publier avec des presses portatives, qu'on puisse les camoufler, qu'on puisse pas trouver les auteurs, qu'on puisse pas trouver les imprimeurs. Et c'est une bataille dans Paris où la police est ridiculisée parce qu'elle cherche l'auteur et elle ne le trouve pas. Et donc c'est en même temps, très curieusement, au nom d'une volonté théologique, la première expression d'une liberté d'expression et le premier vrai texte qui s'oppose au pouvoir royal. Avec d'ailleurs, quelque part un peu plus tard, une phrase qui pour moi est particulièrement forte quand il dit « Si vous êtes sur un bateau, vous ne choisissez pas comme capitaine celui qui a les plus grands titres de noblesse ». Donc c'est déjà une phrase extraordinairement révolutionnaire. Il y a chez Pascal une hauteur de vue et en même temps une exigence de compétence et de morale extrême, qu'il va d'ailleurs exprimer dans plusieurs textes qu'il écrit ensuite sur l'art d'enseigner aux grands. Il y a des textes pédagogiques et puis des notes qu'il prend, dont on ne sait pas vraiment ce qu'il en aurait fait, qu'on publiera après sa mort sous nom de pensée, qui sont des idées philosophiques qu'il note ici ou là sur tous les sujets. Simultanément, il faut savoir que plusieurs phénomènes s'accomplissent, plusieurs événements historiques parcourent sa vie. Sa sœur veut rentrer dans les ordres, lui ne veut pas, parce que s'il rentre dans les ordres, il ne la verra plus, il a besoin d'elle. Son père, qui comme lui ne veut pas qu'elle rentre dans les ordres, donc sa sœur ne peut rentrer dans les ordres que quelques semaines après la mort de son père, et lui fera tout ce qu'il peut pour l'empêcher d'entrer dans les ordres, et continuera à la voir dans la clôture au couvent qui s'installe à Port-Royal. Lui-même vient s'installer à côté de sa sœur, et ce couple continuera autant qu'il peut avec cette extraordinaire distance qui est ainsi créée. Et puis, comme il est très 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 malade tout le temps, il faut oublier que Blaise Pascal pensait que Blaise Pascal a souffert toute sa vie, sans doute d'une tumeur au cerveau, en tout cas de mal aux dents, et qu'il faisait des mathématiques pour ne pas penser à la douleur. Il continue à faire des mathématiques, il invente le début de la théorie du calcul intégral, avant de mourir en 1663-62, juste au moment où le roi devient le roi soleil. Cette vie étrange, puisque c'est une vie qui paraît au service d'une théorie philosophique extraordinairement passagère et vraiment datée, va en fait être extrêmement fondatrice de la pensée française. D'abord, c'est l'inventeur de la langue, je l'ai dit. C'est l'inventeur de la langue française moderne. Je l'ai dit c'est l'inventeur de la langue au sens où elle est faite de clarté, de simplicité, de goût de la métaphore. Il n'y a pas une phrase sur Pascal qui ne soit pas fondée sur une métaphore. Du goût des contrastes, de l'humour qui est permanent et d'une extrême simplicité. Contrairement à ce que beaucoup de philosophes diront plus tard ou feront croire plus tard, on peut dire les choses les plus importantes avec les mots les plus simples. Et Pascal est une rupture majeure avec ce qu'il y a avant et d'une certaine façon avec ce qu'il y a après. Puisque en particulier dans la pensée allemande, que vous connaissez infiniment mieux que moi, la simplicité n'est pas la règle. On a l'impression que l'obscurité est la condition de l'admission au club des philosophes. Pascal nous montre qu'on peut dire des choses majeures dans la langue courante. Deuxièmement, il est aussi sans doute la meilleure incarnation de la France, de son goût pour la raison, mais aussi pour ce qu'il appelle le cœur, qui n'est pas ce qu'on croit. Le cœur chez Pascal, ce n'est pas l'amour au sens humain des choses. Le cœur chez Pascal, c'est la foi, c'est l'indicible intime, c'est l'intuition, c'est ce qui vient au fond de soi, indépendamment de toute capacité à raisonner. Ça peut être l'amour, mais c'est d'abord l'amour divin, et c'est ce qui est en soi, indépendamment de toute capacité à raisonner. Il y a aussi chez Pascal, je l'ai dit, une réflexion qui en fait quelqu'un d'une modernité extrême, c'est cette réflexion sur la liberté. Bien sûr, notre réflexion d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la réflexion qu'il avait à l'époque sur la grâce et sur les différentes formes de grâce effectives, appropriantes, je vous passe tous les détails théologiques de son temps. Mais malgré tout, nous sommes aujourd'hui, sans aucun doute, bien en, autant que lui l'était à cette époque, préoccupés de cette question de la liberté. Nous sommes préoccupés de cette question socialement. Sommes-nous libres selon nos origines sociales, ou nous ne sommes-nous pas déterminés par nos origines sociales pour notre vie d'ici? Sommes-nous libres, et ça c'est la théorie qui va apparaître au XVIIIe siècle, particulièrement visible, sommes-nous libres en fonction de notre lieu de naissance et des races dans lesquelles nous sommes nés? Ça c'est ça qui va apparaître au XIXe siècle, avec les théories sur l'importance, l'égalité des races et les surhommes et les surhommes et ce qui va donner ce qu'on sait au XXe siècle. Donc, l'identité, la liberté liée en fonction du lieu de naissance et l'origine ethnique. Et au XXe siècle, la même question est posée autour de la génétique. Et naturellement, qui aujourd'hui prend toute son ampleur, c'est-à-dire sommes-nous déterminés par nos origines génétiques qui donnent le sentiment que la liberté humaine n'est qu'un leurre. Et tout le discours pascalien sur la grâce est en fait un discours d'une extrême modernité sur les conditions de détermination de la liberté et sur ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Aujourd'hui, dans une société qui, à partir de l'époque de Pascal, et sans doute avec Pascal, commence à prendre conscience que l'utopie majeure de l'Occident va être celle de la liberté. Où Pascal nous met en garde, bien avant tout le monde, sur l'illusion de la liberté, comme étant quelque chose qui ne peut pas être absolu, puisque de toute façon on est limité par l'origine sociale, le pays où on est né, la langue qu'on parle, la nature de notre existence, que Pascal appelle l'existence, et la situation, c'est-à-dire l'organisation dans laquelle on s'exprime, et la façon dont on peut tenir compte de la situation et de l'existence, les deux formes de lien, l'existence c'est l'être que je suis, la situation c'est l'environnement dans lequel je me trouve, qu'on peut sublimer, dit Pascal, dans la conscience, c'est-à-dire dans l'expression d'une valeur qui dépasse l'un et l'autre, en prenant acte des conditions et des contraintes. D'aujourd'hui, d'une extrême importance dans un monde où nous avons fait plus que jamais, et d'ailleurs, d'une certaine façon, c'est la manifestation s'en trouve dans la crise actuelle, nous avons fait de la liberté individuelle la valeur absolue, comme si nous pouvions être totalement libres de tout, libres de choisir la vie qu'on veut, libres de choisir toute forme d'existence, et en particulier libres de ne pas avoir de contrat stable avec les autres. Et Pascal nous dit que de toute façon, cette liberté est contrainte par les conditions même de notre naissance et par l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Et en même temps, peut-être plus encore, il y a chez Pascal, je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose qui est une réflexion très profonde sur la façon dont il nous faut nous conduire ici et maintenant à l'égard de la seule question qui vaut la peine d'être réfléchie, c'est celle de notre attitude à l'égard du temps. Comment nous inscrire dans le temps? Doit-on s'inscrire dans le temps en considérant que nous sommes mortels et qu'il faut donc penser à l'au-delà, ce que fait Pascal en nous prévenant des conditions dans lesquelles on peut espérer un au-delà? Doit-on s'inscrire dans le temps en ne se préoccupant pas du temps présent et oubliant le monde simplement par la distraction? C'est ce que fait Pascal en disant que les hommes vont être happés par le divertissement. Faut-il au contraire penser le temps en disant que nous sommes aujourd'hui dans une situation d'extrême précarité et que la seule façon de vivre cette précarité, c'est d'en trouver les règles de probabilité et donc de développer une théorie des probabilités qui va nous conduire, ce que lui fait, puisqu'il est aussi au passage l'inventeur de la théorie de la probabilité, à mettre en place des mécanismes d'assurance qui vont nous protéger contre les risques. Et il y a donc chez Pascal l'extraordinaire conscience de ce que les trois formes les plus modernes aujourd'hui d'attitude à l'égard de la condition humaine, c'est-à-dire je m'occupe de rien, je ne veux rien savoir, je me distrais, ou je m'occupe de ma vie ici et je m'en protège par l'assurance, qu'elle soit collective ou privée, ou encore la vie ici ne compte pas, la seule chose qui compte c'est l'éternité, ce trio d'attitudes diverses à l'égard de la vie, ces trois se trouvent au cœur et plus que par personne proposées dans la réflexion de Pascal. Et puis il y a, peut-être plus que tout, il y a une vie d'une extrême intensité. Et je crois que c'est ça qu'on peut peut-être regarder avec le plus de passion, c'est cette vie où chaque instant est intense. Depuis l'âge de 7 ans, quand il commence à réfléchir, jusqu'à l'ultime seconde de sa vie, quand il invente la compagnie des autobus, parce qu'il fallait traverser Paris pour aller d'un endroit de ses relations à un autre, où il met en place le premier système de transport en commun ayant jamais existé, en passant par chaque instant de sa vie passé à écrire, à prendre des notes, à penser, à calculer, à écrire, à se battre. Il n'y a pas un instant vide dans la vie de Pascal, sauf peut-être deux années où il a été tenté de se mêler à la vie du monde. On ne lui connaît aucune relation sentimentale, sauf sa sœur, qui n'est pas une relation incestueuse, mais qui est certainement une relation, sentimentalement totalement incestueuse, même si évidemment elle n'est certainement pas physiquement. On ne lui connaît aucune relation sentimentale. C'est pour autant une vie d'une intensité extrême, qu'il savait lui-même très courte, et qui nous donne, je crois, le modèle le plus magnifique de ce que peut être... chez quelqu'un, l'expression de la liberté. Ce qui est fascinant à voir, c'est comment Pascal, en tant qu'intellectuel, en tant qu'écrivain, a survécu après sa mort. Quand Pascal meurt, personne ne le connaît. Les provinciales ont été publiées sous un autre nom, Salomon de Montalte. Ces textes ont été publiés sous ces textes mathématiques sous d'autres noms. Les pensées qu'il avait jetées sur différentes feuilles de papier ne sont pas publiées. Lui-même n'a pas laissé d'instructions pour qu'on les publie. Différents autres petits textes d'une page, deux pages, trois pages ont été publiés au total sous sept noms différents. Et quand il meurt, la machine royale se met en marche et tout ce qui restait de Port-Royal va être détruit. L'église où sa sœur était enfermée volontairement comme religieuse va être rasée. Les tombes même des religieuses, Jacqueline et ses sœurs en religion, vont être rasées et regroupées à quelques mètres de là dans une tombe commune qui se trouve encore aujourd'hui à quelques centaines de mètres de Port-Royal, avec la volonté du roi d'en finir absolument avec cette pensée. Et malgré tout, la pensée de Pascal ressurgit dans l'univers intellectuel. D'abord par quelques ennemis étranges, Voltaire, un peu plus tard, puis d'autres. Puis au XIXe siècle, avec les premiers qui s'intéressent à lui et qui commencent à écrire biographie, où s'intéresse à son œuvre, Renan, Cousin, etc. Puis, et c'est sans doute le grand tournant avec la guerre de 14, la grande guerre, qui conduit à une réflexion sur, pendant la guerre, sur l'absurdité de la vie, sur qu'est-ce que c'est que cette condition humaine où tous les hommes sont condamnés, comme dit Pascal, à avancer vers le bourreau, l'un après l'autre, enchaînés. Et il y a brusquement dans les tranchées ce petit livre qui commence à circuler, qui est lu, qui console, qui donne du sens Il fait qu'après la Première Guerre mondiale, beaucoup de choses sont écrites sur Pascal, beaucoup de biographies sont écrites, comme certains l'ont été écrites juste avant la guerre, d'autres sont écrites juste après la guerre. Et peu à peu, la prise de conscience des dangers de l'absurdité de la condition humaine vont donner à Pascal une nouvelle vie qui ressurgit ensuite comme étant la reconnaissance de cette multiplicité du premier journaliste, du premier philosophe, du premier écrivain de langue française, du plus grand mathématicien de l'histoire française. Dieu sait que la France a eu avant et après lui beaucoup de mathématiciens qui font de cet être une énigme merveilleuse qui nous apprend, je crois, avant tout à vivre avec intensité. C'est, je crois, le principal message qu'on peut retenir. Je vous remercie.
Vous avez évoqué le rapport entre Descartes et Pascal. Ils se sont effectivement rencontrés, les entrevues entre les deux. Est-ce qu'il reste des témoignages ou des écrits relatant leurs entrevues? Quelle était l'influence de l'un sur l'autre? Et quelle est la différence fondamentale à vos yeux entre la philosophie Descartes et la philosophie de Pascal, étant entendu que tous les deux disent que Dieu est maître de tout, mais l'homme reste libre et reste responsable?
Ils se sont rencontrés Pascal avait 22, 23 ans. Il rentrait d'un moment assez pénible. Il revenait de Rouen, où il avait été avec son père. Il s'était installé à Paris, de passage. Et Descartes était de passage en rentrant des Pays-Bas. Descartes avait demandé à Pascal de venir le voir. Pascal avait accepté, puis Pascal était très malade. Et donc, le grand Descartes, immensément célèbre, a accepté de se déplacer pour voir Pascal chez lui, rue Brismich. À l'époque, il habitait dans cette rue à Paris. Alors, ils se sont vus une première fois dans un après-midi, et là, il y avait deux témoins, Jacqueline et Robert Val, qui était un physicien ami de Pascal. Et puis, Descartes est revenu le lendemain, et là, ils sont vus en tête-à-tête. Donc, on a un témoignage par Robert Val de la première rencontre, où ils se sont engueulés terriblement, sur la question du vide, et parce que l'opposition théorique en physique, c'est que Descartes ne croyait pas à l'existence du vide, pensait qu'il y avait un éther qui se glissait quand on retirait le mercure dans le tube, et donc Descartes a fait un cours ce soir-là à Pascal pour expliquer que toute sa théorie du vide était absurde, il n'y avait pas de vide, et Pascal n'a pas répondu, parce qu'il n'avait pas encore fait l'expérience final qu'il allait faire un peu plus tard, donc Pascal n'a pas répondu. Et on ne sait pas de quoi ils ont parlé le lendemain matin parce que la conversation est en tête à tête. On pense qu'ils ont continué cette conversation et que Descartes a cherché à comprendre qui était ce gamin qui avait inventé des tas de trucs et qui commençait à réfléchir, puisque cette conversation a lieu avant les provinciales. Donc il n'y a pas encore l'opposition philosophique ultérieure. En réalité, l'opposition majeure, c'est sur la théorie de la grâce. Il y a chez Pascal l'idée qu'il y a une grâce arbitraire qui détermine le destin des hommes au-delà de la vie, qui est totalement extérieure à la pensée de Descartes. Et donc c'est cette idée d'une grâce déterminante du salut qui est théorie pascalienne que Descartes n'accepterait pas, même si à l'époque elle n'était pas exprimée. Maintenant, tous les deux ont aussi évidemment une passion de la science qui va les rassembler, mais il y a de la part de Descartes, vous me direz, je suis un peu partisan parce que j'ai pris parti pour Pascal en l'étudiant plus que Descartes, il y a chez Descartes une extrême jalousie à l'égard de Pascal, qui est beaucoup plus jeune que lui, 30 ans d'écart, et qui est un petit génie qui a trouvé les choses que lui n'a cherché en vain. Donc il y a une très forte jalousie de la part de Pascal, de Descartes, et ensuite ils n'ont jamais eu plus de contact, ni l'un ni l'autre n'a parlé de l'autre.
De quels outils de calcul disposait Pascal? Parce que quand on lit des textes de son époque, en chiffres romains, et je pense que c'est extrêmement difficile de faire des théories mathématiques.
Oui, c'est très, très important ce que vous dites, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en commençant. D'abord, il n'y a aucun algèbre. Il y a un petit usage du zéro et un petit usage des chiffres romains, mais la quasi-totalité du calcul est fait en chiffres arabes, ou indiens en fait, et la quasi-totalité du calcul est fait en chiffres romains et sans aucun instrument d'algèbre. Aucun. Et donc ça rend les démonstrations extraordinairement complexes. C'est d'ailleurs, à mon avis, une des raisons pour laquelle Pascal a inventé beaucoup de choses dans la langue française, c'est que quand on lit les provinciales, c'est une démonstration mathématique. Et comme dans ces démonstrations mathématiques, lui qui avait une obsession de la brièveté, il a cherché, sans théorème préalable utilisable, puisqu'il n'avait aucune base. Aujourd'hui, les mathématiques avancent très vite parce qu'on a une base de données, de théorèmes déjà développés, qu'on peut appliquer selon le théorème machin, etc. Donc on n'a pas besoin de les redémontrer. Lui, il n'avait presque rien, sauf ce que les Grecs avaient laissé, qu'il est obligé d'écrire en français la quasi-totalité de ce qu'on démontre aujourd'hui en trois équations. Donc il ne disposait de rien, sauf la puissance de son esprit. Et donc il invente le calcul des probabilités à partir du carré magique et tout ça sans aucune base algébrique.
Je voudrais noter au passage l'importance que Pascal accorde au divertissement. Quelque part, c'est une invention de la modernité, 3 ou 4 siècles d'avance. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage de l'importance du jeu?
Il y a chez Pascal quelque chose de aussi de fascinant, c'est que quand il rentre de Rouen, où il était avec son père et sa sœur, il se mêle brusquement par des amis pendant presque 2 ans au monde des salons. Et là, il y a des joueurs. Et donc, il est dans ce monde. Et donc, on peut penser d'ailleurs qu'il va s'y perdre, parce qu'il est fasciné par le jeu, parce qu'il est assez joli garçon, et qu'il est très courtisé, parce qu'il est un phénomène un peu de foire, même si c'est par ses compétences mathématiques, parce qu'on sait que c'est un enfant prodige. Et donc, il est très ami de joueurs, de grands joueurs, de joueurs de trick-track, de joueurs de tous les jeux de l'époque, parce qu'évidemment, comme on n'avait aucune autre distraction, le jeu était très important. Et donc, il va ensuite le théoriser dans la théorie des probabilités, mais il va aussi le théoriser dans sa haine du monde. Et quand il va très vite sortir de ce monde, c'est pour décrire le monde dans lequel il était entré, dans lequel il est sorti, comme le monde du divertissement, c'est-à-dire du refus de la peur, de la peur de mourir et du refus de la peur de l'au-delà. Et donc, d'un monde qui est évidemment une question qui est d'une extrême modernité, puisque, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui entre trois stratégies de l'humanité. La stratégie du religieux, c'est-à-dire celle qui reste le fondement de tout. La stratégie de l'assurance, c'est-à-dire ce qui m'intéresse, c'est la vie d'aujourd'hui et je cherche à me protéger par l'assurance. Assurance sécurité sociale ou assurance privée. Et puis la théorie du divertissement. Je refuse de voir le monde. Et le divertissement, ça va du jeu, mais c'est aussi la drogue, c'est aussi toutes les formes plus ou moins criminelles du divertissement. Et là, Pascal l'a vu et dénoncé avant tout le monde dans ces termes.